France Culture.
Mais à eux, je leur en demande beaucoup, les critiques du jour. Les Lucille Comeau, critique et chroniqueuse du regard culturel dans la matinale de France Culture, bonjour.
Bonjour Marie.
Johan Farber, éditeur essayiste et critique littéraire, bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux. On commence donc avec Jackie, le deuxième roman d'Anthony Passeron paru chez Grasset. Jackie, c'est le prénom du père de l'auteur, un homme qui va s'effacer au fur et à mesure du livre jusqu'à quitter complètement sa famille. Un père, écrit-il, qui a disparu en l'espace de 3 consoles de jeux. Car nous sommes dans les années 80, dans l'arrière-pays niçois, et les jeux vidéo commencent à envahir les intérieurs. C'est Jackie, le père, qui offrira d'ailleurs la première console à l'auteur et à son frère jumeau. À mesure que la figure paternelle déraille et s'efface, les garçons, eux, s'évadent de plus en plus dans le jeu. Le roman figure dans la deuxième liste du prix Fémina. On commence avec un avis en quelques mots d'abord, Lucille Comeau.
C'est un honnête livre bien fichu.
Johan Farber.
Moi, j'ai été un peu déçu par le livre parce que j'avais beaucoup d'attentes après son premier roman qui m'avait assez impressionné. Et là, je trouve qu'il y avait trois problèmes dans ce roman. C'est-à-dire que c'est un récit sentimental mais sans émotion. Et le second problème, c'est qu'il est pris dans un dispositif formel dont il n'arrive pas vraiment à sortir et qui le piège. Et puis, il y a un mouvement de va-et-vient entre silence et écriture qui est articulé dès la citation liminaire de Dorothy Allison, et qui, là, à mon sens, ne fonctionne pas.
On va commencer tout de suite, si vous voulez bien, par écouter la première page de Jackie. Elle est lue par Jules Barbier.
Comme beaucoup de gamins de ma génération, j'ai passé une grande partie de ma jeunesse les yeux rivés sur un poste de télévision raccordé à une console. À mesure que je grandissais, ces programmes ont proposé une réalité plus rassurante, plus stable et souvent plus compréhensible que celle des adultes. Ils ont inscrit dans ma vie un ailleurs, une dimension supplémentaire, un autre rapport à l'espace et au temps. Sans eux, je n'aurais pas su raconter, structurer cette histoire. Les jeux vidéo se sont imposés comme une balise, un repère incontournable pour écrire le roman de la disparition de mon père.
Jackie d'Anthony Passeron, paru aux éditions Grasset. Lucille Comeau, vous dites honnête livre. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot qui est joli, hein, l'honnêteté,
ouais,
a priori?
Non, c'est pas du tout ironique. Je trouve que c'est un honnête livre dans le sens où on sent derrière une forme d'authenticité, à la fois dans la démarche, dans l'écriture qui est simple, et dans justement cette espèce de récit dont on va parler, qui a une forme de rapprochement entre deux grandes choses. La question familiale, donc la question en effet de la disparition du père, qui n'est pas une évidence. Moi, j'ai pas lu du tout la quatrième de couverture. J'avais absolument rien lu sur le livre avant. Et quand on le commence, ce qui est très bien fait, je trouve, c'est qu'on ne comprend pas tout de suite qu'il va s'agir du père, puisque sa figure est, dès le départ, une figure très évanescente, très complexe, très compliquée à comprendre. Ce qui, j'y reviendrai, est vraiment une des belles choses du livre. Parce qu'un homme de cette génération, de cette classe sociale-là, vu comme ça dans la littérature, il n'y en a pas 12 000 non plus. Donc ça, c'est une chose, là, l'histoire familiale d'Anthony Passeron, qui est né en 83. Donc en effet, tout ça se passe à la fin des années 80, années 90, dans un petit village des Alpes du Sud, donc dans un milieu qui est populaire, qui est la petite classe moyenne. Sa mère est employée, son père est boucher. Et l'histoire des jeux vidéo, alors moi qui n'y connais absolument rien en histoire des jeux vidéo, j'y ai appris des choses, ça m'a pas absolument passionnée. Je pense qu'il y a en effet peut-être un problème de couture entre les deux, c'est-à-dire que cet aller-retour entre l'histoire des jeux vidéo, donc la grande histoire et la petite histoire familiale pourrait être peut-être plus intéressante. Elle ne l'est pas toujours et je trouve très bien entendu dans cet extrait, parce qu'il y a quelque chose au début de ce qu'on a entendu qui est assez banal, cette idée que bon, ça va pas trop bien à la maison, donc on se réfugie dans les jeux vidéo. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, qui en plus est un processus pas passionnant. Mais en fait, on se rend compte que le jeu vidéo, il est offert par le père, qui lui-même joue au début, puis plus. Enfin, il y a des choses qui, justement, excèdent l'expérience très basique et très générationnelle du jeu vidéo. C'est pas assez, à mon avis, travaillé. C'est pas assez travaillé de la même manière que la figure du père et cette espèce d'absence construite, puisque la littérature construit l'absence, là, littéralement, n'est pas assez poussée. Ça aurait pu être plus radical et ça aurait pu être peut-être plus violent. Et ça aurait été pas mal. Quand je dis honnête, justement, peut-être qu'il y a une limite, c'est que le livre est un peu gentillet avec ses personnages, avec la posture du narrateur, et y compris même peut-être avec les personnages de la famille qui sont les plus troubles ou les plus compliqués, parce qu'il s'en passe hein, des drames dans cette famille, on aurait peut-être pu creuser un petit peu plus.
Mmh. C'est pas la première fois, puisque son premier livre, Johann Farber, utilisait déjà cet aller-retour entre la grande histoire et la petite histoire, c'était là l'histoire du sida. Vous trouviez que ça fonctionne moins avec, évidemment les jeux vidéo c'est un peu moins intense on va dire.
Oui c'est un peu moins intense et puis surtout, moi je suis assez d'accord avec ce que Lucille Comeau vient de dire, c'est-à-dire que c'est un roman qui rencontre en fait une série de problèmes, c'est-à-dire parler du père, un père comme tâche aveugle, parler aussi du drame du sida qui touche sa famille, mais en fait c'est à peine effleuré parce que le récit en fait recule devant sa difficulté. Et il recule devant sa difficulté en imposant une sorte de dispositif formel où alterne le récit familial et à côté effectivement le récit de la grande histoire qui est ici celle des jeux vidéo, mais dans un récit qui n'est pas vraiment un récit et qui est une sorte de storytelling, un peu à la Wikipédia, où on nous explique vraiment comment se construit la console Atari, hein, il y a une évolution, mon père a disparu en l'espace de trois consoles, hein, qui est une phrase très très forte et qui n'est vraiment à mon sens jamais exploitée, mais qui est une vraie difficulté, ça construit en fait une sorte de contrainte oulipienne au récit pour éviter d'avoir une certaine émotion. Et justement, moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est que ces récits sur les consoles sont des récits extrêmement marketés, formatés, scriptés. Hein. On a vraiment tout le storytelling à l'américaine, hein, fondé sur le Christian Reborn, c'est-à-dire la résurrection. On est, c'est le récit de la start-up. On est petit, puis d'un seul coup, on bricole dans le garage. Ah, puis on croit qu'on va abandonner, puis d'un seul coup, ah, Jésus arrive, le miracle. Finalement, on arrive à cette espèce de récit post-chrétiens qui fondent finalement le management. Mais à part ça, ça ne produit pas l'émotion attendue.
Mais ça, je trouve que ça... Pardon, je vous coupe parce que je sais que vous allez dire autre chose après qui va être intéressant. Je vais oublier mon idée. Mais ça, je trouve ça intéressant justement parce qu'il y a quelque chose d'une mise en rapport entre le récit qui est presque un récit hollywoodien, ce que vous décrivez là. Le type qui bricole dans son garage et qui réussit à faire un truc de dingue alors qu'il était oublié et qu'il était personne. Et le père... En miroir de ça, construit tout un autre destin. À mon avis, il n'en fait pas grand-chose, peut-être pas assez, mais je ne dirais pas que ça ne crée rien non plus. Parce que dans la répétition, dans l'effet de répétition, quelque chose de ce discours très managérial, très attendu, très mainstream, hein, on pourrait le dire comme ça, commence à porter ses fruits. Il y a quelque chose qui accroche de plus en plus, et puis ces personnages-là, ils deviennent tellement abstraits par rapport à la figure du père qui, lui, moi, je trouve quand même, prend une vraie ampleur, que ça crée quelque chose d'un contraste pas inintéressant.
Moi, je dirais qu'effectivement, ça commence à créer quelque chose qui est, pour moi, en fait l'inverse, c'est-à-dire l'effacement de la figure du père, parce que l'émotion qui est générée par ces récits à la Wikipédia, pour le dire vite, c'est une espèce de rétro-futurisme, une espèce de nostalgie fabriquée. On a l'impression par moments que, avec toutes ces allusions aux années 80, c'est comme un roman en VHS pour les nostalgiques du magnétoscope. Et on a l'impression que même dans cette espèce de nostalgie, elle est marketée, alors qu'il y a vraiment des passages que j'ai trouvés remarquables.
Par exemple,
la mort de leur cousine. Cette cousine qu'on suit en filigrane et dont on apprend à la fin qu'elle meurt du sida, ça c'est vraiment un moment poignant. Le suicide aussi de l'oncle préféré, voilà, ça c'est vraiment des passages qui sont, je trouve, vraiment très beaux, très réussis, mais qui en fait rencontrent un obstacle, c'est que pour Anthony Passeron, écrire c'est parler, écrire c'est raconter, et c'est pas justement se taire. Là, je faisais tout à l'heure allusion à la citation de Dorothy Allison en épigraphe, qui dit qu'il y a toujours deux histoires, une histoire que l'on raconte et derrière cette histoire que l'on raconte, une histoire que l'on tait. Et c'est exactement ce dispositif-là, c'est-à-dire que l'histoire qu'il raconte, c'est celle des jeux vidéo, et l'histoire qui se tait, c'est celle de sa famille. Sauf que il gagnerait, à mon sens, à laisser son écriture aussi se taire et ménager plus un art de l'ellipse. Et là, par exemple, dans ces passages-là, notamment quand le père fréquente une jeune fille du collège qui pose un trouble monumental, je trouve, dans le récit, là, il y a comme une esquive, c'est pas assez creusé, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, d'ailleurs, Lucille, je trouve que ça laisse, en fait, sur notre faim, je tiens quand même à dire, parce que là, mes critiques sont négatives, etc., que c'est un roman qui est très agréable à lire, qu'on lit facilement, et qui, effectivement, est un roman, moi, je trouve assez sympathique, et qui devrait, en fait, poser plus de questions, parce que la relation que le père entretient avec cette collégienne me semble être vraiment un épisode assez troublant, mais... écrasé par ce narratif.
Collégienne mineure, hein, à l'époque, oui. Et ça passait comme le train à la poste.
Je suis pas sûre que la question c'est vu de toute façon à travers le regard d'un garçon qui, à ce moment-là, a 12 ans, de la même manière que le sida, le mot est prononcé, je crois, est écrit aux trois quarts du récit. C'est-à-dire qu'en fait, les informations et la manière dont une morale éventuelle s'en dégage arrivent très tard pour un petit garçon qui devient adolescent. Moi, ça me gêne pas. En fait, je pense qu'il y a un hiatus compliqué, et je pense que, en fait, Anthony Passeron, il a un peu de direction, il sait pas trop où aller. Il y a la grande efficacité du récit qui simplifie à outre mesure avec ce truc, parce que c'est un truc, hein, cette alternance entre la grande histoire du jeu vidéo, la petite histoire familiale, et puis une forme de gravité qu'il a subi de fait, qui est, c'est pour ça que je disais honnête, où il y a de l'authenticité, où il va pas complètement, et l'un équilibre l'autre en permanence, ce qui n'est peut-être pas une bonne nouvelle, finalement. Mmh. On a un petit peu envie que ça se bouscule jamais. La fin, par exemple, enfin, je veux pas tout raconter, mais l'épilogue est vraiment une pirouette pratique. On sent qu'il y a des trucs un peu, peut-être aussi d'éditeur, enfin, de fabrication, de récits très fabriqués. On en parlera peut-être avec le livre d'après, parce qu'on est vraiment avec des livres qui sont très fabriqués, et dont je me demande un peu ce que l'éditeur a voulu faire, quoi. Il y a un truc aussi de marketing et de voilà, le livre est un objet marchand comme un autre.
Hein. Mais sur le père, qu'est-ce que ça nous raconte? Ce père est une énigme du début à la fin.
Bah, alors, il y a un moment où il le dit très bien. Il dit que quand il a grandi, Anthony Passeron, il a fait des études, et quelqu'un lui a dit un jour, lui a appris le mot un jacky. Ce que c'est un jacky? Donc, en gros, un jacky, c'est un beauf de la campagne qui répare sa voiture le dimanche. Et il s'est dit, mais moi, mon père s'appelle Jacky, et tous les hommes autour de moi étaient des beaufs de la campagne qui réparaient leur voiture le dimanche. Et donc, toute la question, c'est essayer d'extraire son Jacky, qui ressemble quand même beaucoup au Jacky du cliché, quand même du lieu commun, et de lui donner une forme qui est la sienne. Et ça, moi, je trouve quand même que c'est réussi. Par exemple, bon, ça vous a choqué l'histoire avec la collégienne, je comprends, mais le fait que cet homme-là soit apparemment un séducteur, un objet de désir, etc., le sort complètement de l'image qu'on peut en avoir au début, qui est un type qui est bouché comme son père, qui veut pas, qui est un peu borné. C'est son frère qui a pris sa liberté. Lui, il veut pas quitter son village. En fait, finalement, il quitte à peu près tout. Donc, il y a une vraie évolution du personnage, et ça, c'est intéressant, mais c'est pas assez travaillé, quoi.
Jacky d'Anthony Passeron, paru le 20 août dernier, c'est aux éditions Grasset.